ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour.
C'est quoi là-bas? Chouf.
Chouf Tolosa. Chouf Tolosa.
Ils m'ont dit, tu te lèves, tu n'es pas chez toi ici. Chouf Tolosa. Donc je me suis levée, je l'ai regardé droit dans les yeux, je leur ai dit, je suis autant que vous chez moi en fait, je suis née en France.
Chouf Tolosa.
C'est un nouveau journal en ligne qui vient de se créer et c'est un peu le regard des quartiers à Toulouse.
Mec, mais ayez le regard neutre alors.
Nous, on est une association avec des valeurs, on aime être aider son prochain. On aime être solidaire avec les gens qui sont dans le besoin, qui sont, on dirait, plus bas que nous. Nous, on est déjà les gens d'en bas, mais il y a toujours plus bas. Et voilà, c'est toujours pour aider son prochain. C'est pas rien que donner un repas, c'est voir comment va la personne et relever un peu la température.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud sur les 92.2 MHz de la bande FM. C'est la voix du mag qui commence. Aujourd'hui, une émission qui va parler médias toulousains qui entend proposer des regards autres au pluriel, comme il y en a tant aiguisé aux quatre coins de la Rainerie des Isards, d'Empalo, de la Faourette de Bagatelle, de Nègreneis de la Gloire. Avec nous dans les studios, Nabil, Leïla et Mayange. Bonjour.
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 Alors, vous êtes ici pour parler de Chouf Tolosa.
Ouais.
C'est bien ça?
C'est ça.
Oui, je voulais préciser qu'on vient d'entendre Yamina Issa Abdi, qui est la fondatrice de l'association Isard Attitude, qui représente bien, qui symbolise bien les quartiers populaires. Pour Chouf Tolosa, est-ce que vous pouvez faire un petit historique, un petit peu les dates importantes et nous expliquer un petit peu quand tout ça a commencé?
Pour reprendre un peu la chronologie, donc le point de départ, en fait, c'est un atelier de journalisme, un atelier d'initiation au journalisme, particulièrement aux outils de la presse écrite. Donc c'était un projet porté par le Tacti Collectif, l'association Tacti Collectif, dans laquelle moi je travaillais personnellement justement à l'époque. Et c'est en 2018, et avec un journaliste professionnel, Emmanuel Riondé, qui avait déjà fait ce genre d'initiative sur Marseille, dans les quartiers de Marseille, et c'est cette rencontre-là qui a donné l'atelier de journalisme qui s'est fait sur l'année, c'était de manière un peu scolaire, quoi, 2018-2019, avec des jeunes, c'était ciblé jeunes de 16 à 25 ans, mais au final on est allé un peu plus haut que les 25 ans, c'était plus ouvert que ça, quoi. Et c'était des jeunes qui se destinaient soit au métier de journalisme mais qui sentaient que c'était un peu compliqué, qui en étaient éloignés des filières, etc. Soit des personnes qui voulaient se saisir de... Enfin voilà, par curiosité, quoi, découvrir un peu ces métiers-là. Soit des personnes aussi qui sont venues beaucoup pour débattre, en fait, de la question des médias et des quartiers. Ouais. Et voilà, c'est là qu'a ça a démarré, en tout cas, l'histoire. Et puis en 2019, en juin 2019, dans la suite de cette aventure-là, on est parti du noyau, on va dire, de cet atelier. Et puis avec d'autres personnes, ça s'est ouvert. C'était plus juste jeunes, quoi. C'était avec de toute génération confondue. Voilà, l'ambition de monter un journal, un média des quartiers toulousains. Qui se situe un peu, pour donner un peu des repères, dans la dynamique de Bondy Blog, par exemple, qui est certainement le plus connu, qui s'était créé après les révoltes de 2005 dans les quartiers, et qui aujourd'hui a une place bien, bien assez importante dans le paysage médiatique, et d'autres initiatives de ce type-là, quoi. Voilà. Et puis, pour finir juste quand même sur l'évolution, donc ensuite, le média en ligne, on a sorti pas mal d'articles depuis, etc. Il y a eu des hauts, des bas, on va en parler. Mais il y a aussi eu, plus récemment, en printemps dernier, il y a un an à peu près, voilà, on a monté l'association Les Ateliers de Chouf-Tolosa, qui propose des ateliers d'éducation aux médias. Voilà. Donc c'est un nouveau cap aussi qui a été franchi. On intervient pas mal, notamment dans les établissements scolaires.
Oui, c'est vrai que je suppose à un moment donné, c'est posé la question de qui raconte les histoires, de réapproprier ce pouvoir-là, que le regard porté sur les choses soit peut-être raconté. C'est là où intervient Chouf Média, par les habitants, les habitantes, et plus obligatoirement un regard extérieur qui va arriver avec déjà tout un imaginaire.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est surtout le but de Chouf, dans le sens où on a toujours les idées reçues des quartiers populaires. Et nous, Emmanuel et Nabil, quand ils ont pensé à Chouf, c'était pour parler des quartiers en tant qu'habitants de quartier, ou en donnant la parole aux habitants de quartier qui connaissent le quartier mieux que les autres. Donc c'était important que ça soit comme ça, et c'est sûrement différent de ce qui se raconte dans les médias.
Oui, complètement. D'ailleurs, on va le voir parce que je vais passer quelques sons.
Le racisme, le chômage, l'alcool, le divorce, la misère, la prostitution, la délinquance, la peur. Tel est le vrai visage d'une cité dortoir en 1982. Plus personne ne parle, tout le monde a peur. Peur de quoi? C'est ce que nous verrons demain soir.
Voilà, qui démontre aussi la méconnaissance des journalistes, clairement, des hommes politiques et femmes politiques, ça, j'en parle même pas, mais en tout cas des personnes qui sont en responsabilité, en fait. Un peu de la pensée aussi. Donc, vous avez décidé un peu de vous réapproprier l'outil médiatique. Vous entendez proposer un autre regard sur la ville et ses quartiers populaires et ses cités. Donc, il y a tout de suite cette symbolique du regard, Chouf. C'est à la fois celui et celle qui regarde et celui-celle qui est vu, regardé. Donc il y a cette notion de décalage, comme vient d'en parler Leïla, entre récit et la réalité vécue par beaucoup d'habitants, habitantes de ces quartiers.
Chouf, c'est même, comme on l'a expliqué aussi, donc en fait, le nom, quand s'est posé la question de trouver un nom, un titre à ce média, donc on s'est tous creusé la tête, il y avait des jeux de mots, des trucs plus ou moins foireux des fois. Mais en tout cas, il y avait des idées, il y avait plein de trucs, ou plus ou moins alambiqués aussi, tu vois.
Tu t'en souviens de 2-3 pour voir si on
valide rétrospectivement. Franchement, je ne sais plus, là, ça m'a, on m'a tous fumé de la tête, là, je ne sais plus, c'était parti dans tous les sens. Mais il y a eu beaucoup de choses, je sais, je me souviens que ça a été prolifique. Et à un moment, en fait, il y a Regia... qui était la doyenne du média, du projet et tout ça, qui a sorti Chouf-Tolosa, et pourquoi pas Chouf. Chouf-Tolosa, Tolosa, je ne sais plus comment on y arrive après, c'était sur le côté plus appartenance toulousaine, puis occitane, etc., de faire une dédicace là-dessus, mais Chouf, sur le côté, en fait, Chouf pour le côté, regarde, et en même temps, pour faire un clin d'œil à tous ces jeunes qu'on appelle les choufs qui observent, qui surveillent les points de deal pour la présence policière, etc. Et en fait, qu'on appelle les choufs, du coup. Et en fait, c'était une manière de détourner ce terme-là péjoratif, etc., pour se le réapproprier, et que ça soit venu d'elle en plus. Et en fait, c'est venu, voilà, de tout ce... C'est une manière de te faire dédicace aussi à un sujet qui est très très important depuis le début, et de Chouf-Tolosa, et même des ateliers de journalisme. C'est la question du trafic de drogue, et de toutes ses conséquences sur les habitants, sur les jeunes, sur... Voilà, et en fait, ça prenait beaucoup de place dans les débats, très tôt, et ça prend encore beaucoup de place, parce que c'est un sujet très important, très sensible dans les quartiers, etc.
Des débats, tu veux dire, entre vous,
entre nous, entre des gens qui le vivent, en plus, de manière plus ou moins directe, dure, violente... tu parlais des ISAR, par exemple, les ISAR, ISAR Attitude, ça s'est monté à la suite de règlements de compte entre jeunes, de jeunes très jeunes qui ont été tués. et voilà, de mamans du quartier qui se sont dit voilà, on veut prendre la place et on veut arrêter ça avec nos moyens. C'est ça le point de départ, et c'est quelque chose qui était très très important, que ce soit des gens qui venaient de la Rainerie, de Bellefontaine, des Isards, etc. On sentait que c'était très lourd comme sujet, et en même temps on sentait qu'on avait du mal à le traiter. Et tu noteras même que pour le moment, on n'a pas sorti d'article là-dessus. C'est quelque chose qui reste un... Mais en tout cas, c'est une dédicace là, et de dire que c'est quelque chose qui existe. Et voilà, c'était aussi cette dédicace là, pour le dire.
Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tabou. À un moment, vous précisez que vous serez des journalistes et vous ne ferez pas d'angélisme.
Ouais, ça c'est ce qu'on a écrit un peu dans notre présentation. En fait, l'idée c'était de dire... on est en train justement en ce moment avec le montage de l'association, et puis on a refait des ateliers de... on va dire de chantier du collectif, de l'association, du média. Et on a pas mal réfléchi sur retravailler notre présentation aussi. Donc il y a une sorte de nouvelle charte qui va sortir. Mais en tout cas, ce qui reste important, c'est le côté populaire, éducation populaire, et le côté effectivement, quand on dit pas d'angélisme, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu un double message. C'est de dire d'un côté, nous, on prend, de fait, on est partisans, on prend part pour la cause des quartiers. C'est-à-dire pour dire que, de toute façon, les quartiers sont mal racontés, mal, comme l'a dit Léla, voilà, c'est toujours la même chose. Ça, c'était des choses aussi qui étaient très... C'était des sujets qui revenaient tout le temps, quoi, de dire qu'ils sont tout le temps maltraités, quoi, et dans tous les sens du terme. Et que le but, c'était de revoir un nouveau regard là-dessus, des nouveaux regards, et des regards qui sont pour autant pas forcément que positifs, quoi. Le but, c'est pas... Il y a de ça, en fait. En vérité, il y a montrer les choses positives, parce qu'on parle que du négatif. Ça, c'est une chose. Donc, montrer aussi ce qu'il y a de bien dans les quartiers. Et puis après, deuxièmement, c'est parler des problèmes qui existent, qu'on ne veut pas nier, etc. Comme là, par exemple, on a parlé du trafic, ou on pourrait parler de plein d'autres choses. Mais en parler à un niveau, à un niveau du terrain, quoi, avec des gens qui le vivent quotidiennement, avec que ce soit des personnes qui y habitent, des acteurs ou actrices sociaux du quartier, des personnes qui connaissent le sujet, qui le vivent quotidiennement. Et pas des trucs un peu hors sol comme on voit souvent. Et
il n'y aura pas de stigmatisation et de sous-entendu, en fait.
Voilà, du buzz, de recherche, du truc. Tu vois, ça, c'est un truc important aussi, ouais. Par exemple, de cette manière de respecter les gens, en fait, tout simplement, en fait. Tu vois, c'est-à-dire de ne pas les prendre au piège, de ne pas sortir du contexte ce qu'ils racontent, de faire attention à ce qu'ils disent. Tu vois, les gens, ils sont pas habitués aux médias, donc et certaines vont se confier comme ça, comme s'ils se confiaient à n'importe qui. Ils se rendent pas compte qu'en fait, il y a en face une parole qui va être sortie, qui va être peut-être remontée,
manipulée,
complètement instrumentalisée.
Donc ça aussi, c'est un enjeu important, nous, de faire autre chose, tu vois. Voilà.
Ouais, c'est le point de vue situé, c'est méga important. Là, tu parlais justement des quartiers populaires. C'est quoi le populaire pour vous ?
Je dirais, on les qualifie de territoires perdus de la République. Ouais. Mais moi, je dis pas que c'est parce que c'est hors la loi et qu'on n'arrive pas à rentrer dans les quartiers. C'est plutôt l'État qui les abandonne. Et moi, je le vis comme ça, surtout ces derniers temps. C'est vraiment des territoires... On fera des choses dans les quartiers qu'on ne fera pas ailleurs. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que je dis on est perdu par la République. Ce n'est pas les territoires perdus de la République, c'est les territoires perdus par la République, en fait. Ce qui me truque, quartier populaire, c'est parce que, bon, il y a une certaine classe sociale, donc ça va dire populaire. Et c'est une classe sociale qui est méprisée. Et dont on néglige les demandes ou les besoins. Donc classe populaire, on parlait de trafic de drogue. Quand on parle de trafic de drogue, les gens de quartier aussi le subissent. Les gens de quartier ne veulent pas perdre leurs enfants. Donc c'est comme quand c'est présenté dans les médias, c'est... on dirait que c'est notre faute, mais il y a quand même ça va très haut. Ça n'est pas spécifiquement la faute des petits gamins qui veulent gagner beaucoup d'argent, parce que il y a tout un système qui fait que ils galèrent, donc ils vont vers la facilité. Et c'est ça, quoi, qui fait que y a le mépris, mais c'est un mépris qui n'est même pas mérité, quoi, je dis. Donc, quartier populaire, moi, je dis, c'est des quartiers où il y a la vie, quand même. On a beau dire, mais c'est des quartiers où on trouvera des choses, de la solidarité qu'on ne trouvera pas ailleurs. Donc, moi, quartier populaire, ils pourront dénigrer autant qu'ils veulent, mais il y a quand même ses bons côtés. Et je pense que si on fouille un peu plus que le côté négatif, il y a aussi du côté positif.
Ouais, c'est bien dit. Et je trouve que populaire, c'est toute l'ambiguïté du terme. Parce qu'en fait, il est... tu vois comment dans le champ sémantique, c'est utilisé selon qui en parle. Et en fait, quartier populaire, aujourd'hui, c'est plus ou moins admis. Tu vois, ça a plus ou moins fait sa place dans le champ médiatique, c'est utilisé par des politiques, etc. Mais c'est presque encore une fois détourné, en fait. Parce que populaire, il y a ce que nous, on y met, et qui est important, et on y tient. Je trouve que c'est important de le redire comme ça, là. Et en même temps, il y a aussi une manière, des fois, pour certains, d'utiliser populaire pour un peu...
faire diversion.
Ouais, voilà, euphémiser les choses, voilà, un peu. Se dire, bon, c'est. Gommer un peu leurs responsabilités, au final.
Exactement. Hein,
d'avoir laissé des quartiers pourrir, en fait. Parce que c'est ça, c'est des situations qui pourrissent et qui font que les gens se retrouvent. C'est une concentration de misère sociale, de problèmes qui s'ajoutent, alors le trafic, etc. De plein de choses, de problématiques qui se cumulent. Les questions de logement, etc. Mais en même temps, voilà, il y a de la... Comme ça a été dit par Leïla, c'est ça, c'est qu'il y a... Il y a de la vie, il y a de la solidarité, beaucoup. Il y a toute cette énergie, cette créativité qu'on peut voir dans plein de champs différents, soit du sport, de l'art, etc. Donc c'est ça qui est important. Voilà, c'est populaire, c'est tout ça, en fait.
Il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, d'ailleurs. Du fait que ce soit des quartiers qui soient abandonnés, c'est plus de... On se débrouille ensemble, vu qu'on
exactement.
Sait qu'on ne sera pas,
voilà,
sera
donc,
pas aidé.
Voilà, on ne sera pas aidé.
La
donc
débrouille,
on se débrouille,
c'est
voilà,
ça.
C'est ça.
La débrouille, c'est populaire, c'est ça, la débrouille. C'est... Mais voilà, c'est pas parce que... Comment dire ? C'est pas parce que les gens se débrouillent, justement, qu'il faut, du coup, se dire, bon, ben... Il faut s'habituer à ça, quoi. Et beaucoup de gens se sont... Il y avait un terme que Leïla avait utilisé, que j'avais trouvé très bien, pas très bien, mais je veux dire très fort.
Adéquat, quoi.
C'était, tu sais, sur le truc de Ratatouille, là, un article...
Oui, c'était un article par rapport...
Ratatouille sur la place à Bellefontaine, je sais plus quoi, là. Et en fait, c'était l'invasion des rats partout et tout, tu vois. Donc, elle disait qu'elle envoyait partout...
Et ça n'a pas changé.
Et à la fin, tu disais...
Je disais, c'est, on s'habitue. C'est des choses qu'on ne verra pas ailleurs. On les verra dans les quartiers. Ça va paraître normal.
Ouais, s'habitue. Ou voilà. C'est normal, c'est normal. Les quartiers. Voilà. Et je trouvais que cette banalisation, elle est très, très révélatrice de ce truc.
De la politique menée, quoi.
Mais aussi de l'intériorisation des habitants des quartiers. De se dire, c'est normal ce qu'on vit, des fois.
Exactement.
Et c'est ça qui est problématique. C'est que des fois, du coup, il faut aussi des regards un peu extérieurs, avec un peu de recul, pour dire, c'est pas normal, en fait, ce que vous vivez, là. C'est pas normal et il faut pas se résigner. Et voilà, tu vois. Mais bon... Bon, on pourrait dire plein de choses là-dessus, mais en tout cas,
oui,
il y a ce côté-là.
Si je commence, je finis pas. Je vais juste sortir une anecdote qui était arrivée pendant le confinement, où la police était en roue libre. Bon, elle est toujours. Mais ils avaient chopé un copain à mon fils et l'avaient tabassé. Et à l'époque, j'étais dans le comité de Vérité Justice 31. Je lui ai dit, il ne veut pas en parler. Il lui a dit, non, laisse tomber, c'est habituel. Mais il avait tabassé parce que c'était un moment où il y avait le couvre-feu. Ils auraient pu juste le reprendre, lui dire de rentrer chez lui ou de lui mettre une amende, tout simplement. Mais ils l'ont tabassé, il m'a dit le visage, tu ne le voyais pas. Et il a pris ça, il a pris la tannée, il est rentré chez lui normalement. Donc je dis, ce n'est pas normal. Ailleurs, on proteste. Maintenant, contre les violences policières, personne n'est pour. D'ailleurs, ils ne veulent pas parler de violences policières. Mais dans les quartiers, ça a toujours existé, quoi. Il y a des choses qui arrivent et on ne parle pas parce qu'on se dit, bon, de toute façon, on ne va pas avoir gain de cause. Donc c'est ça aussi les quartiers populaires.
D'où l'importance de Chouf Tolosa qui va porter la voix, faire entendre les histoires, voilà, sans...
Oui, sans couper, dans le sens où si on va parler, on va parler d'une histoire, elle va être tronquée un peu, et ça va être manipulé d'une façon à ce que la personne qui s'est plainte, ça va être elle la responsable. Alors que quand nous, c'est brut, il y a un problème, on va parler du problème sans chercher à faire du buzz ou aller parce qu'on est indépendant, quoi.
De toute façon, ces quartiers ont été véritablement abandonnés. Déjà, ils sont isolés géographiquement, voilà, par rapport à la ville. Donc les politiques instrumentalisent en fait complètement le fait de rendre insalubre aussi certains bâtiments. J'ai retrouvé des images de l'INA de 82 qui expliquent déjà ce phénomène en fait.
1960, la France fait face à la crise du logement. La forte croissance démographique de l'après-guerre, l'exode rural et l'arrivée des rapatriés d'Afrique du Nord entraînent en effet une véritable pénurie d'appartements. L'expansion économique bat son plein, il faut construire, construire, construire. À Toulouse, comme ailleurs, on se penche sur la question. Le maire socialiste de l'époque, Louis Bazerque, décide alors de créer une ZUP, zone à urbaniser en priorité, dans un quartier dont le nom deviendra célèbre, le Mirail. En 1962, c'est le projet proposé par l'équipe d'architectes Candilis Josic Woods qui est retenu. Pour l'époque, un projet révolutionnaire qui prévoyait un maximum de voies piétonnes, le respect des parcs existants et le mélange des lieux d'habitation avec les lieux de travail. Le Mirail devait alors accueillir 100 000 personnes réparties en trois quartiers, la faculté, la Rainerie et Bellefontaine. En fait, tout le projet reposait sur un double pari. 1. Diminuer au maximum les déplacements des habitants en réunissant sur place logement, services et travail. 2. Réussir à recréer la communication entre les gens grâce notamment aux voies piétonnes, aux coursives et aux équipements sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, en 1982, ce double pari est un échec. Le Mirail, même s'il reste un exemple dans les écoles d'architecture, est devenu une cité dortoir de 40 000 habitants où la misère progresse de jour en jour. Et pour cause, la plupart des habitants du Mirail sont des déracinés. Qu'ils viennent d'Algérie ou de l'Ariège, le problème est le même. Personne ne peut se retrouver dans le béton. Certains immeubles sont plus que sales. Alors, à qui la faute? S'il est vrai que les habitants ont une part de responsabilité dans cet état de fait, les véritables responsables restent les trois sociétés d'HLM. L'office public, l'office des chalets et la société languedocienne. Leur politique est simple, c'est celle de la carotte et du bâton. Ceux qui payent régulièrement leur loyer sont mis dans des immeubles bien entretenus, les autres sont entassés dans les bâtiments délabrés comme celui de Varèse.
Quand vous allez à côté, c'est impeccable, c'est propre, il n'y a pas de saleté comme ça, mais vous venez ici, ça sent mauvais, ben, vous pouvez pas rester.
Donc ça fait bien longtemps, quoi.
Quand on parle d'habitude, en fait, c'est parce que t'as pas le choix, quoi.
Donc c'est pas une habitude, c'est la résignation, c'est, moi je dis, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est que bon, on n'a pas le choix, donc on subit. Y a plein de choses qui ressortent parce que quand on parle, on n'est pas écouté ou on dit que ouais, on fabule. Mais il y a des choses après qui s'avèrent, qui apparaissent et on avait raison, quoi. Et j'en ai plein d'anecdotes comme ça par rapport à ça, quoi.
Et c'est vrai que tous les exemples qu'on va donner, c'est des personnes du quartier qui s'organisent en fait par solidarité pour venir en aide ben voilà, aux personnes du quartier. Quoi.
Voilà, c'est ça.
D'ailleurs, j'ai un petit son à vous faire écouter qui est révélateur justement du regard extérieur sur ces quartiers-là. C'est une équipe de France 3 Midi-Pyrénées qui vient faire un reportage en fait sur les Dizards, là. Et c'est un dialogue en fait qui est pris en off entre ce journaliste qui vient tourner et une habitante. Et je vous fais écouter parce que je trouve que ça justifie l'existence d'un média comme Chouf Tolosa.
Attention monsieur, hein, c'est du off ce que je suis en train de faire. Hein. C'est pas cool ce que vous faites. Hein. Notre seule présence suffit à créer des tensions. Après, parfois, on arrive un peu à désamorcer quand on dialogue avec les gens, quand on explique notre démarche, etc.
Ah oui, justement, il faudrait que les médias en général arrêtent de se focaliser sur les événements dramatiques. Nous, depuis qu'on est arrivé sur le quartier, j'ai beaucoup regardé la presse par rapport aux Izards. Que des choses négatives. J'ai rarement vu d'articles sur les nouvelles assos qui sont en train de se créer.
Il y en a aussi, mais certainement que la proportion n'est pas la même.
C'est ça qui est dommage.
Oui, mais après il y a une réalité aussi.
Ce qui est important pour le quartier, c'est pas les événements dramatiques qui s'y passent.
Ah, je sais bien, mais après un quartier, il se crée aussi sa propre réputation. Donc il y a bien une réalité. C'est comme à Marseille.
Évidemment.
Non ?
Évidemment qu'il y a une réalité, je dis pas que c'est le monde.
Enfin, il y a une réalité aussi dans les quartiers nord à Marseille, par exemple.
Ouais, il y a tout de suite en fait cette opposition qui est quand même claire entre le journaliste qui arrive avec plein d'a priori, et surtout c'est la construction de la réalité que je trouve hyper questionnante en fait, parce que chacun a sa réalité quoi.
Bah, c'est exactement ça, c'est que la personne, elle a envie de dire du positif, lui dit non, oui, nous, l'image qu'on a dans les médias, c'est négatif, donc il faut rester négatif, on ne va pas aller à contre-courant. Donc même si on raconte qu'il y a des choses bien qui arrivent, ça ne va pas être pris en compte. Et en plus, quand ça parle des événements dramatiques, qu'est-ce qui est fait pour que ça n'arrive plus ? Est-ce que des mères de famille sont heureuses de perdre des enfants à cause du trafic de drogue ? Non. Donc, il faudrait peut-être dire que même les habitants de Cartier souffrent de ces situations-là. Donc, moi, c'est pour ça que j'écoute plus les infos, d'ailleurs, parce que, comme vous dites, il n'y a qu'une réalité, là, et c'est la leur. Et nous, même si on essaie de démontrer par rapport au B que c'est différent, qu'il y a autre chose, ça ne passe pas, quoi.
Alors, en fait, là-dessus, tu vois, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a... Je pense que ce serait un peu limité ou un peu utopique de se dire on va créer des médias, heureusement il y a Chouf Tolosa, heureusement il y a tel média, il y a le Bondi Blog, pour prendre un gros média qui pèse un peu dans le game des quartiers et tout. La vérité, c'est que déjà, bon, Chouf Tolosa, déjà on en est à notre modeste place, on évolue, on fait ce qu'on peut, mais pour le moment, c'est quelques articles de temps en temps. On n'est pas du tout un média qui sort, tu vois, qui est à fond, qui envoie des gens. Et on n'est que des bénévoles, de toute façon, en plus.
On n'est pas financé, oui, effectivement.
Donc, il y a un financement maintenant de la Fondation Abbé Pierre, mais du coup, qui est tout récent et qui est une fondation, qui est un organisme privé, du coup. Et ça nous a donné un confort là pour pouvoir se relancer, avoir des moyens un peu, mais on n'aura pas de quoi payer, en tout cas pour le moment, quelqu'un, un salarié ou quoi, ne serait-ce que ça. Ou des piges, ou des personnes qui soient payées en pige, vraiment. Donc ça, c'est notre situation déjà, pour le dire un peu. Mais après, même si on se développait, même si... je pense que c'est important, bien sûr, de développer les médias alternatifs, mais il y a aussi la réalité. Il faut aussi travailler de l'autre côté, je pense, sur les médias dominants, les gros médias, que ce soit nationaux ou locaux, de se dire qu'il faut faire bouger les lignes aussi, quoi. Et c'est aussi à ça que ça peut servir, je pense, notre position et d'autres groupes ou regroupements, associations, etc. C'est de aussi à un moment créer un peu un rapport de force à ce niveau-là et de leur dire on va plus vous laisser raconter n'importe quoi, n'importe comment, d'une part. Et puis l'autre rapport de force, il est aussi de se dire qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui viennent des quartiers, qui viennent de ces réalités-là, issus de l'immigration, tu vois, en termes de représentativité, dans ces médias, et qui puissent peut-être aussi avoir pousser aussi un peu à de l'intérieur ces lignes-là. Je pense qu'il y a tout ça qui marche ensemble, en fait. Okay. C'est pas l'un ou l'autre, ou opposé l'un ou l'autre. Mais c'est sûr que, par contre, le constat, il est ce qu'il est, bien ça, bien sûr. On le sait, quoi. Mais je pense que ça évolue un petit peu dans certains médias, et je pense que c'est notre responsabilité de faire, de faire bouger les lignes, quoi.
Tu veux dire éducation aux médias, visibilité aussi de la diversité sur l'espace médiatique, plus traditionnel.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça, c'est en train de se faire. Moi, par exemple, je suis en train de passer les concours de journalisme là, cette année, et je travaille avec l'association La Chance pour la diversité dans les médias, qui a vraiment un peu la même ligne que Chouf, où le but, c'est de donner la parole à ceux qui n'ont pas, ou de changer la mentalité des médias un petit peu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'étais vraiment contente de commencer à bosser avec vous, parce que si on se contente d'écouter ce que les médias mainstream disent des quartiers, ben, comme ce que le journaliste disait, oui, il faut dire la vérité, mais quelle est cette vérité, en fait ? Quand on écoute la vérité de CNews, c'est pas la même vérité que Chouf Tolosa. Donc, je pense que ça doit se faire des deux côtés.
Ouais, bien sûr. Mais c'est ça, et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, nous, c'était aussi l'ambition du début, et qui reste une ambition, même si y a plein de choses qui ont évolué. C'est de pouvoir permettre à des jeunes qui sont issus des quartiers, de l'immigration, des immigrations, etc., et qui souvent se sentent éloignés de ces filières-là, de journalisme, de pouvoir s'y préparer. Alors, avec nos modestes moyens et réseaux, mais Voilà, on a quand même du coup un journaliste professionnel, Manu, qui est quand même voilà, qui a assuré pendant longtemps ses ateliers d'initiation au journalisme. On continue à le faire dans le champ de l'éducation aux médias et on continue à le faire en interne aussi aux personnes avec les personnes qui nous rejoignent. Bah, on s'auto-forme en fait tous et tout, mais il y a aussi voilà, si à un moment il y a des personnes qui veulent rejoindre des écoles de journalisme, déjà de leur, ne serait-ce que aux plus jeunes, de leur faire voir que c'est possible déjà, ouais, que ouais. C'est pas quelque chose qui leur est interdit. Déjà c'est ça, déjà la base. Et après, pour les personnes qui veulent y aller, ben voilà, de les accompagner au mieux. Et à ce sujet, on a deux personnes, on a deux jeunes femmes du groupe de départ de l'atelier d'initiation au journalisme qui sont rentrées en école de journalisme. Une à Bordeaux, l'autre à Paris, me semble, je ne saurais plus dire. Mais en tout cas, pour la deuxième, justement, aujourd'hui, elle travaille au Monde. Et ça, c'est aussi...
Elle est passée par la Dépêche.
Elle est passée par la Dépêche, ici. Après, ouais, ouais, voilà. Et maintenant, au Monde. Ouais. Donc, ouais, non, d'ailleurs, c'était sur Toulouse qu'elle devait faire son école de journalisme. Et donc, voilà, ça, c'est aussi des satisfactions. Et c'est aussi la fonction de Chouf-Tolosa, quoi.
Oui, voilà, s'envisager, quoi. De toute façon, c'est ce que dit Mayange. C'est possible. Tu veux aussi prendre la parole pour pouvoir donner la parole.
Oui, beaucoup. Bah, par exemple, moi, j'ai grandi au Burkina Faso. Ça fait 7 ans que je suis en France. Et depuis que j'ai commencé les études journalistiques un petit peu, je me suis rendu compte du manque de visibilité, ou en tout cas de la visibilité très anglais dans les médias. Ne serait-ce que par rapport aux diasporas, j'ai commencé un podcast là-dessus parce qu'on n'en parle que quand il y a des problèmes, on n'en parle que quand il y a des attentats dans les pays étrangers ou en France, on n'en parle que quand il y a des morts, on n'en parle que quand il y a du négatif en fait. Alors qu'il y a beaucoup de choses à dire de positif aussi, notamment sur l'associatif qui se fait, de l'entraide qu'il y a. Donc ouais, ce serait bien que les nouveaux futurs journalistes ou même ceux actuels commencent à changer un peu leur vision, changer un peu leur manière de voir les choses et leur a priori. Rimka, 1-1-3, Sahraoui, Amana, 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 Chou, Chou,
Bledi Paris. Dans mon bled toute l'année, le soleil brille, un barrage de gueuf et le temps devient gris. C'est le marathon quand tu passes les douanes, quand tu te parles et te craches des flammes. Ils sont habiles comme des kabyles, distingués de par leurs habits. C'est les terreurs de la ville quand ça part en vrille, efficace comme un calibre à billes. Respire, tu ferais mieux t'asseoir, fais disparaître ce que tu planques dans l'armoire. Ce soir, t'es dans le viseur d'un spectre nerner, c'est un western moderne. Course poursuite vénère sur les bords de mer, au moindre regard tu bouffe le carrelage, ils sont introuvables, c'est la pose carroie.
Chouffe, chouffe, y'a quoi y'a chouffe, dis-moi ce que tu en penses, ici, là-bas, partout, au pays de ma naissance. Chouffe, y'a quoi y'a chouffe, dis-moi ce que tu en penses, ici, là-bas, partout, vive les années.
Alors que je m'arrête à un barrage, pas vu, pas pris depuis mon jeune âge, toujours scred, circule dans la ville, évite les keufs en civil. Je suis bilingue, envoie-moi Interpol. Mon courage le porte sur mes épaules. Je les vois venir à des kilomètres, hey, de keuf avec l'accent du bled.
T'as des basketteurs, tout star qui pique comme un as. La moustache a du gros, celle des carcasses. Colombo à côté, c'est Walou. Kojak ou Maigret, c'est Balourd. L'espérance du bled qui parle. Le trait d'une histoire sérieuse sans tirer une balle. Il a le nif, la démarche d'Aldo Machon. Sa technique de blédard à Paris, elle fonctionne.
Chouf, chouf, hier, oui, chouf. Dis-moi ce que tu en penses. Ici, là-bas, partout, au pays de ma naissance. Chouffe, y'a quoi, y'a chouffe. Dis-moi ce que tu en penses. Ici, là-bas, partout, vive les rues, où est la France. Y'a Arbi, ou y'a une amie. Y'a l'idée mec, mais le demi. Houma, annèche, ou ma chasnache. Ou allez, l'adien, ou ma sénèche.
Et puis ça vaut aussi pas que pour les journaux, des journalistes d'ailleurs, tu vois, là tu me montrais le journaliste de France 3. C'est une chose, mais au final, est-ce qu'il n'est pas assez représentatif de la société française ? Comment elle envisage ses quartiers populaires et ses zones, etc. Et qu'à un moment, il y a une responsabilité aussi de tout le monde d'aller au-delà des préjugés, d'aller un peu chercher ce qui se passe réellement dans les quartiers, quoi. Il y avait un truc qui s'était passé, il y a eu, j'essaye de rebondir aussi sur des articles qu'on a sortis, mais il y avait un article d'un membre de l'équipe qui était, qui en gros c'était « Moi, jeune de quartier, pourquoi j'ai rejoint les Gilets jaunes ?» C'était au début du mouvement des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, je trouve que c'est un bon point d'entrée parce que c'est un moment où des gens, on va dire les classes populaires blanches, plutôt de campagne ou de ville petite moyenne, se sont mobilisés. Des gens qu'on n'entendait pas, qu'on voyait pas, etc. La France d'en bas, là, qui s'est mobilisée fortement. Et dans un premier temps, il y a eu cette injonction qui est revenue un peu là dans le mouvement des retraites de « Mais où sont les quartiers ? Exactement. Où sont les jeunes des quartiers ? Où est la banlieue ?» Et là, ça a été un peu, ça a été forcément des réactions épidermiques du point de vue des quartiers, de dire, mais en fait, des habitants de quartier, de dire, mais en fait, on attend quoi de nous déjà ? On attend qu'on vienne servir de chair à canon ? Pourquoi on nous mobilise maintenant comme ça, là, sur. Alors avant, il y avait pourquoi les quartiers sont pas Charlie ? Puis là, c'est pourquoi les quartiers sont pas Gilets jaunes ? Et en fait, et en même temps, il y avait ce côté, mais déjà, qui vous dit qu'on n'y est pas ? D'une manière Exactement. Ou d'une autre, parce que plein de gens y étaient. Ouais. Leïla peut en témoigner.
Ouais. Et puis... Je peux en témoigner. En plus de ça, bon, je vais juste dire sur les manifs, parce que moi qui fais manifs, je vais souvent à des manifs. Hein, et c'est peut-être les Gilets jaunes, c'est la seule où je me suis sentie pas étrangère dans le lot. Souvent, je précise, je suis voilée. Donc, c'est les seuls qui me disaient vous êtes à votre place. Ouais. C'était la première fois qu'on me dit ça dans une manif. Bon, sauf si c'est des manifs pour la Palestine, mais en général, c'était bien. Donc, les Gilets jaunes, on les a soutenus, mais après, comme disait Nabil, il y a des personnes qui disent que nous, quand les quartiers s'embrasaient après des décès de jeunes par la police, il y a personne qui soutenait. Ils se disent, oh bon, c'est sauvage qui se soulève, un de plus, un de moins. Et donc, comment aller dans les manifestations pour les soutenir? Mais j'ai envie de dire qu'il y avait des gens de quartier qui partaient dans les manifs des Gilets jaunes et ailleurs. Et il y a personne qui est là pour vérifier, qui vérifie les identités des manifestants. Donc, mais c'est juste pour jeter l'anathème sur les gens de quartier pour pas changer, quoi.
Et pour continuer là-dessus, juste, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir. C'est quand il y a des injustices de manière générale dans les quartiers, où est le reste de la population ? Et en particulier, là, c'est les cas extrêmes, quand il y a des drames trop, trop nombreux de crimes policiers, de morts dans les quartiers, etc. Où sont les gens qui s'insurgent contre les violences policières, etc. Et c'était un peu ça. Et surtout, où étaient les gens en 2005 ? En 2005, quand là, ça a été carrément après la mort de Ziad Ebouna, ça a été tous les quartiers de France qui se sont embrasés. Et à ce moment-là, il n'y a pas eu de solidarité. Il y a eu juste après, si on se souvient bien, là on est dans le mouvement des retraites. À l'époque, il y a eu un gros mouvement, c'était le mouvement anti-CPE contre la réforme du CPE, qui est arrivé au printemps du coup 2006, et qui était plus ou moins d'ailleurs une réponse partielle à la question des soulèvements des quartiers et de la jeunesse des quartiers. Bref, et du coup, quel lien il y a eu entre ces mouvements-là ? Quel loupé il y a eu ? Et je pense que ça nous permettrait déjà de comprendre un peu mieux pourquoi des fois il y a une démobilisation apparente, parce qu'on a dit, comme on a dit, c'est plus compliqué, des habitants des quartiers sur ces formes de mobilisation-là. Mais effectivement, pour continuer pour aller dans le sens aussi de Leïla, moi je trouve que les Gilets jaunes, ça a été un bon exemple aussi de, même si les gens ont sorti ça un peu naïvement et tout, de ils sont où les quartiers et tout ça, mais au final, assez rapidement, et surtout quand il y a eu les premiers gros cas de violence policière, beaucoup de gens ont dit, notamment à Toulouse, maintenant on comprend la réalité des quartiers. Et il y a eu des rencontres même avec Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, le comité et tout là-bas. Voilà, il y a des Gilets jaunes qui se politisaient, qui venaient de se politiser, qui ont compris le truc-là, qui ont fait du lien avec les quartiers. Et certainement plus que la gauche n'en a fait pendant des dizaines d'années avant, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens d'ailleurs qui pointaient du doigt les gilets jaunes au début du mouvement. À juste titre, il y a eu des choses très problématiques, hein, de racisme et tout, mais en disant c'est des bandes de racistes, de beaufs, de machin, il y avait un côté un peu aussi mépris de classe qui s'est joué là. Et au final, il se trouve que, moi je trouve que les gilets jaunes étaient bien plus proches des préoccupations populaires, des quartiers, etc., que n'a été la gauche durant toutes ces années, quoi.
Ouais, ouais, clairement, et je pense que les gilets jaunes sont rapprochés des quartiers populaires en découvrant la violence policière.
Exactement,
en fait.
Ouais, c'est ça. Violemment, ils se sont rendus compte que ce qui s'ibussait, les flashballs et tout ça, les quartiers populaires étaient un peu un terrain d'expérimentation. Et là, maintenant, c'est malheureux de se rendre compte que quand ça nous touche, mais quand on en parlait, je pense que c'est important... Encore que nous, c'est l'LBD, ça tue pas, mais quand ce sont des balles qui tuent, c'est encore plus grave, quoi.
Je vous fais écouter un son, justement, qui parle de ce regard sur la politisation. Après, je vous demanderai ce qu'est pour vous la communauté.
Et alors, pour moi, ça a été un point de départ, parce que je me suis sentie appartenir à une communauté de destin et une communauté politique. J'ai compris que, qu'il y avait là une force en puissance qui était incarnée par les descendants de l'immigration post-coloniale, en soi en fait, que c'était une force politique qui pouvait se constituer et qui était qui avait des intérêts propres et spécifiques auxquels j'étais attachée sans m'en rendre compte. C'est pour ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais là en fait. Et donc, ça a été l'ouverture pour moi, ça a été la découverte d'une nouvelle lecture du monde, qui est la lecture décoloniale. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est un point de départ, parce qu'ensuite, la manif a dégénéré, mais ça a été à la fois. Oui, ça a dégénéré, mais à la fois, c'était fabuleux, parce que c'était extraordinaire. Il y avait une résistance, il y avait tout. Enfin, c'est quelque chose qui reste dans mon théâtre intime, dans mon théâtre intérieur.
C'est Louisa Yousfi, à propos de son essai « Rester barbare », qui parle aussi d'une manifestation à Paris pour la Palestine il y a quelques années. Je voulais savoir si ça résonnait en vous, et c'était quoi pour vous la communauté ?
La communauté de destin, je trouve que c'est vraiment très beau comme manière de le formuler. C'est de dire que c'est pas nous qui choisissons de nous battre ensemble, ou c'est pas le communautarisme dont on entend beaucoup parler, ou qui serait une approche volontaire, où c'est nous contre eux. Non, c'est pas ça du tout. C'est juste que c'est par nos expériences, c'est par ce qu'on vit, où on nous fait comprendre qu'on n'a pas notre place dans la France en général, on n'a pas notre place sur le devant de la scène, alors forcément on est obligé, à force de partager ces expériences-là, de les exprimer entre nous, de s'asseoir ensemble, de discuter pour dire oui, ce que je vis, est-ce que tu vis la même chose que moi ? Oui, et ce n'est pas normal, mais au moins on se comprend. Et c'est comme ça que moi je vis la communauté, c'est le fait de réaliser que je suis pas seule en fait. Il y a d'autres gens qui vivent ce que je vis au quotidien, que ce soit en bien ou en mal, hein, aussi, ça peut être des expériences positives. Mais bon, c'est plus ce négatif qui rapproche malheureusement.
Ouais, moi là-dessus, je vais donner une petite anecdote. Il y avait... D'ailleurs, ça a été en deux temps, parce qu'il y a eu aussi une fois où un passage de Macron à Montpellier, là, dans les quartiers du Petit Bar. Où je crois qu'il avait été interpellé là-dessus, je ne sais plus si c'était Macron ou un de ses ministres, par une des mamans là-bas. Mais il y avait déjà à l'époque, il y a quelques années avant, un collectif de parents d'élèves, principalement des mamans du quartier, du Petit Bar, qui s'étaient mobilisés pour plus de mixité dans leur école. Et en fait, elle disait qu'elle voulait plus de république, en fait. Ça rebondit un peu sur ce que disait Leïla tout à l'heure, c'est que des fois, en fait, on essaye de mettre, d'imposer des trucs de laïcité, etc., de mettre le soupçon sur le communautarisme qu'il y a dans les quartiers, notamment autour des musulmans, des musulmanes, etc. Mais en fait, là, elles avaient retourné le truc. C'était que des mamans issues de l'immigration marocaine, pour la quasiment totalité, qui avaient leurs enfants scolarisés dans une école du quartier. Et ils étaient que entre petits français d'origine marocaine. Et en fait, elle disait, mais voilà, c'est vous qui avez créé cette situation, c'est pas nous, en fait. Et puis, petit à petit, il y a toutes ces questions de comment les gens... On le voit, moi, je travaille aussi aux ISAR, dans le champ de l'accompagnement scolaire. On le voit aussi comment il y a une forme de ghettoisation qui se fait par comment on laisse les collèges pourrir dans certaines zones, et puis aussi sur comment des gens ont les moyens de détourner la carte scolaire et de aller mettre leurs enfants ailleurs, etc.
D'habiter les quartiers un peu qui deviennent hype, en fait, mais mettre leurs enfants dans les écoles loin de...
Et donc de cette réalité-là, à un moment, ça va un peu dans ce que tu disais, Maillange, aussi, tu vois, c'est qu'à un moment, cette réalité-là, les gens, ils la vivent, ils n'ont pas d'autre choix que de composer avec les gens qui les entourent. Et la communauté, elle donne de la force, bien entendu, dans ces cas-là. Et, mais c'est pour un peu retourner le truc, quoi. À chaque fois, du communautarisme, on en mange dans toutes les... Depuis des années. C'est un fonds de commerce, en fait, politique. Mais la réalité, c'est que la communauté, ça peut être déjà quelque chose de beau. Parce que déjà, il n'y a pas une communauté figée. Il y a des communautés. On fait tous partie de différentes communautés. Et en plus... il y a, comme tu disais là, quoi, la communauté de destin, la communauté qui subit, en fait, et qui essaye de se redonner de la force ensemble. Et ça, c'est... Et puis souvent, qui est très, très ouverte. Moi, des expériences que j'ai vécues, c'est des gens qui sont, de fait, obligés de vivre ensemble entre eux, parce qu'ils sont entre eux. Je prends l'exemple des ISAR, là. ISAR Attitude, par exemple, on parlait de l'asso. C'est ça, quoi. C'est la plupart, c'est des mamans du quartier qui sont entre elles, qui sont la plupart d'origine algérienne, etc. Par contre, l'asso, elle est tout le temps ouverte à qui veut venir les rencontrer, créer des choses ensemble. En fait, elles accueillent... c'est un accueil qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est tout ça aussi, les quartiers. Et voilà. Il y aurait plein de choses à en dire aussi. Mais...
Moi, il y a beaucoup de choses à dire. Rien que, bon, quand on dit communauté, il y a le communautarisme qui est autorisé, celui qui ne l'est pas. Quand on voit l'Assemblée nationale, le communautarisme blanc, il est autorisé. Donc, c'est rigolo. Mais bon, la communauté, moi je dis, c'est très rigolo parce que nous, quand on est dans un quartier populaire et qu'on veut déménager ailleurs, on ne nous donnera que dans les quartiers populaires. Donc, même si on veut aller ailleurs, il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. La mixité sociale, ce n'est pas nous qui ne la voulons pas, c'est eux qui ne la veulent pas. Moi, je suis du quartier de Bellefontaine. Ils ont refait, je vais parler vite fait, des collèges qui ont été détruits. Collège Ronnery, collège de Bellefontaine, ils ont été détruits il y avait 3-4 ans. Et ils ont été refaits pour justement faciliter la mixité sociale, pour qu'il y ait un peu tout le monde. Donc les enfants de quartier de Bellefontaine et de Ronnery ont été acheminés en ville dans les différents collèges. Et cette année, les collèges qui devaient être refaits, qui devaient accueillir des gens de Bellefontaine et de Ronnery, ont été ouverts. Mais j'ai lu dans un truc vite fait qu'apparemment, il y a des parents qui ne veulent pas venir à Bellefontaine ou à Guillermy, c'est du côté de la Ramée, et ils mettent leurs enfants dans les collèges privés. Donc la mixité dont ils parlent, et c'est pas nous qui ne la voulons pas, le communautarisme, c'est eux qui le créent. Moi, j'ai eu des anecdotes par rapport à des enfants de la Ronnery qui sont partis à Fermat, le collège Fermat très réputé. Eh ben, ils sont vraiment mis de côté. Est-ce qu'il paraît la vie scolaire, ils ont un traitement à part. Et les profs, quand ils devaient accueillir les enfants de la Ronnery, ils ont dit à leurs élèves, faites attention, on va avoir des enfants de quartier, faites attention à vos sacs et à vos portables. Donc on a déjà cette image qui est véhiculée, mais c'est un enfant de 11 ans que vous allez accueillir. Donc si vous le rejetez dès le départ, ne vous demandez pas pourquoi il y a du communautarisme plus tard. En plus, comme disait Marie-Ange, c'est un peu pour nous sauver un peu de la solitude et du rejet. Donc... de toute façon, c'est tout est à l'envers. Ce qui est dit, c'est toujours, il faut toujours chercher autrement et voir que c'est différent et que le communautarisme dont ils nous accusent, c'est eux qui l'ont créé.
Mais là, on est en 2023. Tu dis les enfants des quartiers vont être mis de côté, rejetés, mais c'est parce qu'ils sont de quartier ou c'est parce que...
Parce qu'ils sont de la Ronnery avec la réputation du quartier de la Ronnery, parce que c'est un quartier populaire. Et paradoxalement, si on les met dans du privé et on paye, ils sont un peu plus mieux considérés. Donc en même temps, c'est clivage sur clivage.
C'est des Français, Françaises, nés en France. Ce que je veux dire par là, c'est que le racisme, il est au cœur de ce qu'on est en train de dire. Là.
Bien sûr.
C'est-à-dire, c'est du racisme.
Oui, c'est du racisme, c'est du rejet, c'est l'intolérance, tout ce que tu veux. Quoi.
Après, il faut, comment dire, il y a des choses qu'on peut nuancer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a des exemples de réussite qui sont certainement mis souvent en avant, d'ailleurs, pour montrer que ça peut marcher, que ça marche. Et dans l'absolu, je veux dire... ça marche et c'est bien fait, c'est bien accompagné. Mais en fait, il y a un vrai problème de prise en charge globale, en fait, d'une situation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste déplacer des élèves d'un point A à un point B.
Exactement.
Dans une autre réalité complète et se dire ça va marcher, ça va... En fait, à un moment, il faut un accompagnement, il faut aussi un accompagnement des parents,
il faut avoir...
Et puis un truc aussi, hein, sur le côté, faut les préparer eux, mais faut préparer les autres aussi. Hein. Faut préparer les élèves, les petits blancs du centre-ville aussi quelque part. Et peut-être avec un truc, un sens de l'accueil, de plein de choses.
Et moi, j'avais une maman, je te coupe la parole, pardon. J'avais une maman qui avait posé la question, qui n'était pas si bête que ça. Elle disait, pourquoi est-ce qu'on ne ramène pas les enfants dans ville, dans les quartiers populaires, pour mélanger et que ce soit pas que nous qui allons là-bas pour les déranger, quoi.
Et puis, de toute manière, le terme... Enfin, ça, c'est encore une fois, hein, communauté, communautarisme, laïcité, mixité. C'est des termes qui sont devenus, en fait, un peu des outils de propagande, souvent, et qui ont perdu de leur sens, qui pouvait être noble, on va dire, ou voilà, qu'ils pouvaient interroger et tout ça. Et par exemple, au lieu de mixité, je pense qu'il faudrait réfléchir plus à l'égalité des droits ou des chances, tu vois. Ouais. C'est qu'à un moment... on fait les choses pour que des personnes qui sont défavorisées puissent arriver à une forme d'égalité, quoi. Et si c'était pris déjà dans ce sens-là, peut-être qu'on arriverait plus à prendre justement en charge, comme on disait là, comme je disais, l'entièreté du problème. Là, il y a des endroits où ça marche, faut le dire, il y a des endroits où ça marche, mais en fait, ça suffit pas à démontrer que le processus est bien ficelé, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où ça marche pas, où il y a des échecs, où il y a des choses qui vont retentir plus tard aussi, où il y a des choses qui ont été mal faites, où il y a des difficultés qui s'ajoutent, des fois des complexes aussi. Moi j'ai eu plusieurs jeunes, hein, des témoignages de plusieurs jeunes par exemple, plus le quartier des Isards là, mais qui se retrouvaient au lycée Saint-Cernin et qui ont été complètement déstabilisés, alors qu'ils avaient des scolarités plus ou moins, pour la plupart auquel je pense, là, une scolarité plutôt bonne, quoi, plutôt... Et là, ils ont été complètement percutés, choc scolaire et choc culturel, quoi,
culturel,
ouais,
aussi.
De se dire, on comprend pas, voilà, ils sont perdus, et beaucoup qui ont demandé à repartir de là-bas, du coup. Qui ont demandé à être rebasculés sur des lycées ailleurs.
Dans les quartiers,
ouais, ouais.
C'est ça. Moi,
en filière pro ou quoi.
Voilà.
Eux-mêmes, tu t'exclus toi-même, en
ouais,
fait,
c'est ça.
Parce qu'on fait peser aussi sur
parce
toi.
Parce que c'est trop, ils ne s'y retrouvent pas, ils sentent qu'ils ne sont pas dans leur milieu, qu'ils ne sont pas...
Ils ne sont pas dans leur aliment, c'est ça.
Donc c'est ça, quand je parle d'accompagnement, c'est que c'est un tout.
Mais il y a tout, il n'y a pas que l'accompagnement au niveau de la personne qui va partir là-bas. Les élèves, comme tu dis, c'est grave parce qu'ils sont un peu... Moi, je dis qu'ils sont un peu projetés là-bas sans truc. Mais il y a aussi le fait que le niveau scolaire... Ça, j'ai toujours bataillé. Je sais que le niveau scolaire au niveau des quartiers n'est pas le même. Et que quand ils arrivent au niveau des autres collèges, ils ont toujours des lacunes.
Ouais.
Et quand j'en parlais, moi, parce que j'étais parent délégué, on me riait au nez. Non, madame, non, c'est pas...
Ouais,
c'est
pas
vrai,
hein.
Non, ça n'existe pas. J'ai rigolé parce que quand ils ont fait là, le truc de les deux collèges là, pour à la mixité sociale pour élever le niveau, j'ai dit donc j'inventais pas le truc. Donc en fin de compte, ils sont venus et même ces collèges-là, ils ont dû batailler, je sais que par la FCPE, qu'ils ont dû batailler pour avoir les terrains pour construire parce que c'était pas trop dans le truc, quoi, dans la politique de la ville de rehausser le niveau, quoi.
Petit prince, ton mouton est prisonnier des ronces. J'ai j'ai tout observé du haut de ma branche. Aucune délivrance, privé d'oxygène et sans réponse. Il ne vit que pour être découpé en tranches. Piégé dans les halls, moins de haut que de bas. Et ça n'en doute pas, mais j'ai vu tout ça depuis l'époque de Patrice Touta. Je me demande comment, moi maman, je me demande plus pourquoi. On se voit peu même croire, pas que mon cœur ne bat plus pour toi. Non, c'est juste que j'ai un plan. On est tellement derrière qu'on croit tout le temps qu'on est devant. Posté sur le terre-terre, 3-4 grammes dans le sang. Car on roulera pas en RR en restant dans le rang. Et tout se gâche et ça me répugne. Dans le zoo, c'est retourné acrobatique sur le bitume. Dans Paris, nos voix s'échappent de tout type de véhicule. Le chanteur nique la mer à Lara Fabian sur iTunes. Fiston, tu vois tous ces anciens sans chico. Ils vendaient la A1 Perico. C'est pas du pipeau, mais tôt ou tard on se fait éclater. Du plus petit pion à El Chapo. Les petites sont locas, elles savent ce qu'il y a sous le capot. Si c'est un pack ou une prépa, on les bluffe pas. Elles sont fans de Uzi et de moto. De Verratti, de Thiago Motta. Elles sifflent la muerte avec les restas. Elles sortent le soir danser dans le dos de Papa Fuerte. Elles sautent dessus direct, elles abandonnent leur pinko. Elle est bien loin l'époque de la Super Nintendo. Ça joue perso. Et on a bien raison. T'es tellement traite que ça emboucherait l'horizon. Tu m'empoisonnes Zama, tu cherches la guérison. Est-ce que je vais même m'en sortir, l'avenir joue à ni oui ni non. Je veux des millions, j'ai le cœur brisé, immunisé. Je n'ai pas le secteur préféré tant que c'est bien rémunéré. Que j'ai peu de chance de déférer ou de voir mes fantômes déterrés. Car désiré c'est chaviré, je suis loin de la ligne d'arrivée. Parisien pas paresseux, tu cherches un truc pas par ici, hein. Même si tout ça c'est pas une vie, hein. Non, on n'est pas des affamés, j'apparais, je disparais toute la nuit. Je n'ai qu'une parole, j'écoute que la daronne. Donc à chaque fois qu'elle parle, je lui réponds si patronne. Fidèle comme Limon, comme 50 devant Eminem. J'aime pas trop les interviews, j'essaye de la jouer comme Mylène. J'suis dans le game, j'suis dangereux. Rien à perdre, j'ai les deux pieds dans le feu. J'suis dans le VIP, t'es dans le faux. Trop de bouteilles, j'vois plus les glaçons dans le seau. Plein de bouteilles, on peut rentrer en crampons. Hein, ils savent qu'on est des champions. Je fais la bise au patron, hein. Il sent que je suis un champion, hein. Je suis tellement loin, je sais même plus quand j'ai tort. Un point où je sais même plus quand j'ai peur. Je suis sûr d'un truc, c'est qu'on n'aura pas la même mort. Et que Rolex ou pas, on a tous la même heure, hein. Je suis la cause, les conséquences. D'année dans l'errance, quand on tombe, les qu'on dédance. Si on, quand est-ce qu'on dépense. Au lieu de le mettre à la planque, juste pour rattraper le manque, ben on remplirait la pièce. Et le 206 du petit serait un classe. La putain de sa race, grossier personnage. J'ai le gland qui chatouille leur œsophage. Sous un ciel orage. Moi quand j'ouvre les yeux, tout est mauve. Le rouge, ça va, j'ai ma dose. Non, je prends pas de pause. Me sauver en vrai, t'as autant de chance que de faire un broching à un chauve. S, tu regardes la porte et moi la fenêtre. L'OSA, je veux voir leur tête quand je vais apparaître. J'allume dans le tas direct, je me prends pas la tête. Mes anciens potes complotent, ça me brise le cœur la nuit. J'entends des voix qui me disent de les fumer ou de minimum les ruiner. Y'a plus de pitié quand y'a plus de peut-être. Je préfère partager mes dîners avec deux prosuites genoux que vous m'offriez une cigarette. Bah ouais les mecs, bah ouais les mecs, promis, demain j'arrête. Mais tu connais la règle, je passe pas la manette. Prends-toi une canette, moi deux bouteilles de Jack. Et avec la monnaie, rajoute des cacahuètes. Et j'ai du mal à kiffer James Bond. Il me rappelle que l'Occident tue des enfants et encule des mères dans le tiers monde. Bombardé par des drones, déchiqueté par ceux qui tiennent le monde dans leur paume. Par chirurgical, y'a plus une âme dans la zone. Et le roi des fils de pute pose ses fesses sur le trône. Des explosions et des cris, des centaines de corps empilés à la déchetterie. Imagine ton petit déj devant des F-16 et des tanks. Et t'aurais moins de mal à comprendre pourquoi ils ont quitté la Syrie, le Pakistan et l'Irak. Et que chaque feu rouge de Paname ressemble à la cour des miracles. Et la compassion est morte. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me manque. Oh putain, qu'est-ce qu'elle me manque. Je l'ai vu se faire crucifier sur une planche à billets de banque. Et alors petit prince, veux-tu devenir un roi. Ou bien rester une pince et suivre toutes leurs lois. Il est temps de faire un choix, veux-tu te faire une place. Si tu veux te faire une place, tu laisses ton âme chez toi. Tu monteras sur le GP, tomberas dans le ghetto. Tu joueras les kékés, tu voudras les euros. Tu perdras ta gaieté quand tu fumeras sur le bédo. Ton innocence sera découpée avec une scie à métaux. Quand tu toucheras la coco, clientèle de popo. Tu goûteras Giuseppe, Pepe et Valentino. Les hôtels et les restos, les voitures et les tasse-pés. Jusqu'à ce qu'ils défoncent ta porte et qu'ils te passent les bracelets. Et ça te fait même pas peur la prison. Non, au contraire, ça te fait rigoler. Ce trou du cul de maton, c'est pas que t'es déjà habitué à un lit superposé. Et t'aimerais passer tous les parages. Mais ces fils de pute veulent mettre des péages dans les nuages. Tu voudrais juste changer ton image. Mais ils te verront toujours comme une limace, hein. Et tonton et prisonnier des ronces. J'ai tout observé du haut de ma branche. Trouve-toi un refuge, fais tes valises, allez, vas-y, bouge avant de finir découpé en tranches. C'est pas pour toi les halls, pourquoi jouer un rôle, t'es pas si cruel. Même si je sais que t'es livré à toi-même. Parmi les hyènes, tu passerais pas la semaine. T'as rien à voir avec l'espèce humaine. Petit prince. 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 Petit prince.